Chers auditeurs, nous allons donc aujourd'hui aborder la vie consacrée, la vie religieuse, la vie consacrée dans le diocèse de Bayonne en ce XIIe siècle. Quand on se trouve devant la porte d'entrée de l'église paroissiale de Laons, on peut lire sur la pierre centrale du linteau un chiffre, 1121. On a découvert ce chiffre lorsque, en 1934, on avait entrepris des travaux de restauration de l'église et on avait pensé qu'il s'agissait de la date de la construction de l'église, ce qui était assez peu vraisemblable. En effet, ce bâtiment était l'église abbatiale des religieux prémontrés, la première communauté de religieux installée au labour, sans doute au XIIe siècle, mais certainement pas en 1121, car c'était l'année où Saint Norbert avait fondé les prémontrés dans le nord de la France, près de Laon. Il serait étonnant qu'il ait, la même année, implanté une maison à l'extrémité sud-ouest de la France. Ce chiffre, semble-t-il, avait pour but de rappeler que l'ordre des prémontrés était très ancien. Cependant, il faut reconnaître que l'ordre des prémontrés a essaimé très tôt, vers notre région. Une abbaye de cet ordre existe dans le Gers, une abbaye appelée la Casa Dieu. Et vers 1150, Bertrand, le vicomte de Bayonne, va lui donner une terre où elle va ériger l'abbaye de Laons. Celle-ci va fonder divers prieurés au diocèse de Bayonne qui deviendront des paroisses où elle nommera les curés, par exemple la Madeleine Isfour ou Soubernois à Béobie. En 1210, une communauté de prémontrés occupera l'abbaye d'Urdax, qui se trouvait alors au diocèse de Bayonne. Il y existe dans ce diocèse de Bayonne une autre forme de vie consacrée, mais pas une vie conventuelle à proprement parler, celle des donats. Ce n'était pas une institution propre à notre diocèse, car on la trouve dans de nombreuses régions. Le donat ne menait pas une vie conventuelle sous l'autorité d'un abbé. Il logeait dans sa maison et vivait de son travail. Le donat, comme son nom l'indique, se donnait à Dieu par des vœux et en même temps se liait à un monastère, à un prieuré ou simplement à une église, parfois par une sorte de contrat qui lui assurait quelques avantages matériels pour ses vieux jours. Il était difficile de parler dans ce cas-là de vie consacrée, de vie religieuse proprement dite, même s'il adoptait et suivait dans sa vie la spiritualité de l'ordre religieux auquel il adhérait. Le cartulaire de la cathédrale de Bayonne contient un document qui ressemble à un registre où sont consignés, sans aucune date d'ailleurs, les procès-verbaux de professions religieuses rattachant des donats à l'église Sainte-Marie, c'est-à-dire à la cathédrale. Et l'un de ces procès est le fils du vicomte Fortune Sens, qui a exercé cette charge de 1060 à 1093. Il est probable que Raymond II, l'un des premiers évêques de Bayonne, l'a rencontré quand il est venu faire sa visite pastorale à Bayonne. Et c'est cela d'ailleurs, c'est cette date qui nous permet de savoir qu'à Bayonne, eh bien, il y avait des donats dès le début de l'existence du diocèse. À l'occasion de la profession de son fils, le vicomte, Fortune Sens, va donner à l'église Sainte-Marie, c'est-à-dire au chapitre, une pommerée toute proche de la cathédrale et également va lui donner l'église Saint-Vincent du Rugne. Ce sera le chapitre qui aura sa charge, ou plus exactement, qui aura la charge d'y nommer le curé. l'institution des donats va se développer avec le pèlerinage de Compostelle, car depuis longtemps déjà, la partie est du diocèse de Bayonne est le passage pratiquement obligé des dévots de Saint-Jacques. Les routes jacobites se rejoignent à Ostabat et de là, les pèlerins se dirigent vers Saint-Michel, d'où ils entament la montée du col d'Ibagneta. En ce début du XIIe siècle, le passage du Pays basque n'a rien d'une agréable promenade pour les pèlerins. L'un d'entre eux, un moine poitevin, Émery Picot, raconte en 1125 ce qui lui est arrivé au passage au Pays basque. Auprès des ports de Cise, dans le bourg appelé Ostabat et puis à Saint-Jean et à Saint-Michel, pied de port, il y a de mauvais péagers. Ils sont franchement à envoyer au diable. En effet, ils vont au-devant des pèlerins avec deux ou trois bâtons pour extorquer par la force un injuste tribut, et si quelques voyageurs refusent de céder à leur demande et de donner de l'argent, ils le frappent à coups de bâton et lui arrachent la taxe en l'éjugulant et le fouillant jusque dans ses culottes. Ce sont des gens féroces et la terre qu'ils habitent est hostile aussi par ses forêts et sa sauvagerie. La férocité de leur visage est semblablement celle de leur parler barbare, épouvante le cœur de ceux qui les croient. Le tableau décrit par Émery Picot est donc plutôt sombre. Ces péagers, en réalité, étaient au service du roi d'Aragon, qui venait de faire main basse sur la Navarre. Mais les choses vont changer sur le plan politique et l'accueil des pèlerins deviendra un peu plus chrétien. En témoigne le nombre de maisons appelées hospitalia qui vont surgir de terre tout au long du siècle. Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem vont fonder l'hôpital d'Irisari et celui plus modeste d'Apat Hospitalia près de Saint-Jean-le-Vieux. Mais l'organisation de l'accueil des pèlerins prendra un élan nouveau quand en 1132, cela fondait le monastère des Augustins à Roncevaux. On peut dire que ce monastère sera le centre névralgique de cette activité d'hébergement et d'aide pour les pèlerins. Les chanoines de Roncevaux vont se soucier d'établir également des relais sur la partie nord du parcours avant la montée du col. Au diocèse de Bayonne, Roncevaux va fonder plusieurs filiales, celle de Bonloc par exemple, de Bidaraille, de Saint-Michel, Alas Mokochail, à Saint-Jean-le-Vieux, Archoritz. Ainsi, grâce à un réseau dense de maisons, souvent modestes, le diocèse de Bayonne pouvait offrir aux pèlerins une détente matérielle et spirituelle appréciable après la longue route accomplie jusque-là avant la rude montée d'Ibagneta et avant les chemins austères et les vastes hôpitaux qui les attendaient après Roncevaux sur les plaines de Castille et de Léon. À la fin de ce XIIe siècle, on peut dire que le diocèse de Bayonne jouit déjà d'une belle vitalité. On peut dire qu'elle a atteint même sa maturité. Elle va entrer dans le XIIIe siècle sans craindre l'avenir. Nous le verrons à notre prochain entretien.